Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Caroline Châtelet, Lucille Como et René Solis. À notre programme, la dernière bande de Samuel Beckett, mise en scène Jacques Osinski au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. Symphonia Harmoniae Celestium Revelationum, créée par Marie-Pierre Bréban et François Chéniaud. C'est en ce moment à la MC 93, à Bobigny. Il y aura un coup de cœur de Caroline Châtelet pour Un dieu, un animal, d'après le livre de Jérôme Ferrari, mise en scène et adaptation Julien Fissera. Et puis, le journal de la dispute de Lucille Como sera consacré ce soir à l'édition théâtrale. Et nous ouvrons cette dispute avec la dernière bande de Samuel Beckett à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet. Deux ans après Cap au pire, le comédien fétiche de Léo Scarrax, Denis Lavant, retrouve Samuel Beckett et le metteur en scène Jacques Osinski avec la dernière bande. Pour rappel, dans cette pièce, on découvre Crap, vieil écrivain raté, presque clochard, qui enregistre mais aussi réécoute à chacun de ses anniversaires ses vieilles bandes magnétiques rangées dans des cartons datés, numérotés. Il y a tenu une sorte de journal où il témoigne du bonheur de son amour et de sa rupture, évidemment piteuse, dialoguant avec une version plus jeune de lui-même. Crap se souvient qu'il a aimé.
Le haut du lac, avec la barque, nager près de la rive, puis pousser la barque au large et laisser aller à la dérive. Elle était couchée sur les planches du fond, les mains sous la tête et les yeux fermés. Soleil flamboyant, un brin de brise, l'eau un peu clapoteuse, comme je l'aime. J'ai remarqué une égratignure sur sa cuisse et lui ai demandé comment elle se l'était faite. En cueillant des groseilles à maquereau, m'a-t-elle répondu. J'ai dit encore que ça me semblait sans espoir et pas la peine de continuer, et elle a fait oui sans ouvrir les yeux. Je lui ai demandé de me regarder, et après quelques instants, elle l'a fait, mais les yeux comme des fentes à cause du soleil. Je me suis penché sur elle pour qu'il soit dans l'ombre. Et ils se sont ouverts.
Un premier tour de table rapide, dans un premier temps, sur cette dernière bande, Caroline Châtelet.
Alors c'est un spectacle millimétré et mélancolique qui offre une réflexion émouvante sur le temps qui passe.
René Solis.
C'est noir et net et ça s'imprime.
Lucille Como.
Oui, moi, ce qui me fascine dans ce spectacle et dans Beckett en général, c'est à quel point tout spectacle est fidèle à Beckett et on voit pas ce que ça pourrait être d'autre. Et c'est le type de question que je me suis posée pendant une heure et demie.
Oh, on a vu des dernières bandes pourtant très différentes. Bon, parlons de celle-ci, Caroline Châtelet, description de l'espace de jeu, des parties pris de ce spectacle.
Alors, lorsque nous, les spectateurs, nous prenons place dans la salle, la scène est à vue, elle est plongée dans l'obscurité, mais on voit quand même sur celle-ci, placée à l'avant-scène, un bureau métallique sombre avec une chaise. Au centre de ce bureau trône un magnétophone à bande, dont celui dont Crap se servira, et à côté un empilement de cartons. C'est assis à ce bureau que va apparaître Crap, qui est interprété par Denis Lavant. Si je dis apparaître, c'est que vraiment nous allons le voir littéralement surgir, puisque le noir va se faire dans toute la salle et scène comprises. Et donc là, une lumière va se rallumer. Cette lumière, c'est une suspension lumineuse qui est située au-dessus du bureau. Ce sera le seul éclairage du spectacle, une lumière froide crue et blanche, et qui est donc la lumière du bureau. On dirait que Krapp, il s'est toujours tenu à cet endroit, puisqu'en fait, quand il apparaît, il est immobile, il ne bouge pas, il regarde droit devant lui, vers nous, et en fait, il va rester dans cet état de fixité et d'immobilité pendant un nombre de minutes interminable. Enfin oui, je ne sais pas, je pense que
nous ne savons
pas. Mais il y a vraiment
2 minutes, je me suis dit.
Mais non.
C'est pas possible. Non. C'est fou, hein. C'est... On en parlera avec le
spectacle d'après,
mais il y a un
vous.
Truc avec le temps.
Oui. Et donc c'est ça. Et y a
ça peut être 5 et c'est déjà beaucoup.
Il y a cette immobilité qui dure peut-être 5 minutes, c'est difficile de le quantifier, mais qui d'emblée installe un rapport au temps différent. Donc en fait, par ce premier geste qui est hyper minimal, nous plongeons dans le temps de ce personnage, qui est un temps en suspension, en fait, où nous sommes complètement arrêtés. Et alors après, Krapp va effectuer un soupir, et il va commencer à son manège, sa partition. Donc il va regarder l'heure, il va chercher une banane, faut chercher des clés, aller chercher une banane dans le bureau, caresser la banane, la manger, il va recommencer tout ce petit manège-là, et puis ensuite il va aussi commencer à manipuler les bandes, à réécouter les bandes. Par moments, il quittera la scène et il ira boire de l'alcool. Ça, on ne le verra pas, on le saura juste par le son de débouchage de bouteilles, de verres. Et donc, on a vraiment tout un spectacle qui étire le temps long avec des arrêts réguliers, des reprises.
Ben voilà une très belle description précise qui nous met dans l'ambiance, parce que déjà on débat sur le temps de ce premier temps. René Solis, pour aller plus loin et pour ouvrir vraiment la dispute.
Oui, alors vous parliez d'une apparition et il s'agit vraiment de ça, quand le visage de Krapp de Neil Avant apparaît. Et puis je disais que ça s'imprime et oui, c'est 5 minutes, 4, 5, 6, enfin on ne sait pas.
Ou 20
et
selon Lucille Gaumont.
Et c'est totalement, c'est extraordinaire. Je veux dire, quand je dis que ça s'imprime, c'est vraiment de ces images de théâtre dont on se dit que dans 20 ans, on s'en souviendra et que quelqu'un qui l'aurait vu aujourd'hui pourra dire dans 40 ans, je me souviens du visage de Denis Lavant, genre la dernière bande. Alors ce visage, il est totalement immobile, c'est un masque. On pourrait presque dire que c'est un masque mortuaire. Pensez au masque mortuaire de Bozo le clown, parce qu'il y a un côté clownesque. Et c'est drôle parce que j'ai aussi pensé, puisqu'elle est morte la semaine dernière, à Lucille Destouches, la veuve de Céline. Et je pensais aussi à un visage célinien. Il y a quelque chose de ça dans son visage.
Ravagé. Totalement ravagé. Par beaucoup de choses, pas seulement le temps.
Oui. Et magnifique en même temps. On ne s'en lasse pas. Et alors, il est totalement immobile, c'est une statue. Mais il y a quelque chose qui bouge et on ne sait pas si... On a plutôt l'impression que c'est plus fort que lui, en fait, que c'est le seul mouvement qu'il n'arrive pas à contrôler, c'est celui de ses pupilles. Et ses yeux sont en mouvement, alors même qu'il est totalement immobile. Bon, ce début, il est magnifique, il y a rien à dire. C'est une espèce d'évidence comme ça qui vous cueille et qui vous happe. Et je dois dire que le reste du spectacle, je l'ai trouvé, moi, remarquable de netteté, je disais, de façon très simple, et en même temps il propose des choses, c'est-à-dire que bien sûr il y a cette toute cette obligation liée au théâtre de Beckett de suivre pas à pas ce que vous évoquiez, Lucille, au début, le fait que il est toujours là, c'est-à-dire qu'il est arrivé à contrôler post-mortem ce qu'on fait de son théâtre, c'était d'ailleurs sa volonté. Et il y a quand même, de la part de la mise en scène, des choses, moi, qui m'ont beaucoup touché et intéressé. Et en particulier, le travail sur le son et sur le magnétophone. La dernière bande, en fait, c'est une pièce à deux personnages. Il y a le Krapp, le vieux Krapp sur scène. Et puis, il y a le Krapp plus jeune, celui qui réécoute. Et ce Krapp plus jeune, il a un corps. Et ce corps, c'est le magnétophone. Et dans la plupart des mises en scène de la dernière bande que j'ai vues, j'en ai pas vu tant que ça, mais j'en ai vu un certain nombre, ce magnétophone, forcément, occupe beaucoup de place. C'est-à-dire qu'on l'entend beaucoup. On entend les changements de bande, les claquements, les chuintements, et ça fait partie presque, on se dit oui, ben c'est forcé, c'est ce vieux magnétophone, forcément il faut qu'on l'entende. Et là, de façon très subtile, je trouve, Jacques Ozinski a choisi de nettoyer complètement le son, tous les sons parasites d'une certaine façon de ce magnétophone. Alors on entend encore un peu les claquements de quand il appuie sur une touche, mais très peu. Et la voix qu'on a écoutée, qui est une voix enregistrée, enfin une voix du magnétophone de de Krabbe-Jeune, on entend très bien. Elle est d'une clarté absolue. Et du coup, ce parti pris de nettoyer d'une certaine façon le son, ça fait que l'écoute est encore plus grande. Enfin, j'ai trouvé moi que
on
n'est pas du tout dans les bruits, parasites. Et moi, du coup, j'étais parfaitement scotché sur mon fauteuil et l'oreille totalement attentive.
Lucille Gomeau, pour vous, cette dernière bande.
Oui, je me suis fait la même réflexion que René sur cette équivalence sonore quasiment de la voix de Denis Lavant sur scène et de la voix de Denis Lavant sur la bande. En effet, c'est peut-être la chose, le parti pris de mise en scène qui est le plus éclatant, parce que sinon, c'est vrai que évidemment c'est artificiel, ce que je disais tout à l'heure, la fidélité au texte de Beckett, je peux imaginer, même si je crois que j'en ai jamais vu d'autres de dernière bande, qu'on puisse faire ça totalement autrement, mais la mise en scène de Jacques Ozanski fait que ce n'est pas possible d'imaginer autre chose sur ce texte-là, c'est-à-dire que cette espèce de magasin d'accessoires que le clown, dont le clown s'entoure, donc la banane, la montre à gousset, c'est absolument pas imaginable autre chose, un autre fruit, un autre type de montre, c'est évidemment ça. Et ça, je trouve que déjà, c'est une force du spectacle. Et cette équivalence des deux voix, ça crée un rapport au temps qui est extrêmement particulier. On parlait de noirceur et de mélancolie, je pense que c'est là qu'elles se fondent, parce qu'il y a des passages où le personnage de Krabbe rit de lui-même, et souvent il rit de lui-même riant. C'est-à-dire que les deux rires se superposent et sont tout à fait équivalents dans leur timbre, dans leur rythme. Et ça crée un rapport à la vieillesse, au passage du temps, qui est très particulier et je trouve très très sombre. Il y a des moments où le personnage, il est agacé par lui-même, il est agacé par son éthos jeune, par son moi jeune. Et donc il avance rapide parce que ras-le-bol. Et ce dont il a ras-le-bol, c'est les potentiels envolées lyriques, c'est la littérature, quoi. C'est la langue qui fait du plein, qui crée de l'image, qui crée de l'extérieur, un soleil éblouissant, ce qui n'est pas du tout beckettien. Donc il avance là-dessus, et ce qui l'intéresse au final, c'est toujours une même scène, qui est une scène érotique en fait, hein, puisque la dernière bande, c'est aussi la dernière fois que Krabbe bande, c'est aussi assez masturbatoire comme type d'action, enfin la seule action, pourrait se résumer à ça. Donc il écoute en permanence ce qu'on a entendu là dans l'extrait, donc cette jeune fille qui se retrouve couchée au fond d'une barque, et lui qui se met par-dessus elle, le seul mouvement étant non pas le sien ni le sien à elle, mais celui du clapotis, ce que je trouve quand même assez incroyable. Donc c'est un texte qui n'en finit plus d'évider, de sortir du lyrisme, de vraiment de raturer en permanence ce qui pourrait être de l'ordre du lyrisme, et qui finit par se creuser. C'est un texte qui ne fait que creuser. Et c'est quand même une épreuve, ça ne dure qu'une heure et demie, donc certes il n'y a pas 20 minutes de silence. Non, je pensais plutôt à 20 minutes avant que lui prenne la parole. Avant que lui prenne la parole. Mais c'est quand même une forme d'épreuve et de demande d'attention très particulière dans les économies de l'attention dans lesquelles on est aujourd'hui quand on va au théâtre, quand on va au cinéma. Moi, les gens étaient très agacés autour de moi. Je pense que c'est pas facile. C'est pas un spectacle qui est facile à voir. Il y a de la gêne, il y a de l'agacement, il y a des rires un peu déplacés, enfin qui ne tombent pas exactement là où il faudrait. Enfin, c'est assez particulier, je trouve, la texture spatio-temporelle que ça crée dans la salle. Ouais.
Caroline Châtelet, après avoir bien décrivez vos impressions sur ce spectacle, votre analyse.
Oui, alors en fait, c'est un texte qui est pas facile, comme vous le dites, Lucille Gomeau, mais d'autant plus que j'ai eu le sentiment que le parti pris de Jacques Ozanski, pour moi, son parti pris de mise en scène, c'est d'investir complètement les didascalies. Donc en fait, déjà, ce texte, il est très court, il fait 6 pages, c'est presque une pièce didascalique où il y a autant de didascalies que de...
Didascalies, donc les indications de mise en scène données par l'auteur dans le texte.
Voilà, indications de mouvement, de déplacement, d'action.
Et d'accessoires.
Oui, il y en a autant presque que de... Que de texte, que ces moments-là, et que ce sont aussi ces moments-là qui s'étirent, et que par ailleurs, on a quand même vraiment un dispositif qui est très simple, où moi j'ai quand même l'impression d'avoir une mise en scène qui va à l'os, qui prend le texte, qui le creuse à l'os, et j'ai en mémoire une précédente mise en scène de la dernière bande qui avait été montée par Peter Stein au Théâtre de l'Atelier en 2016 avec le comédien Jacques Weber, et là pour le coup, la construction du personnage, Jacques Weber incarnait un Krabbe très clownesque, mais ouvertement clownesque, avec le nez rouge, avec une coiffure, avec un costume plus bigarré. Or là, c'est vraiment par tous les gestes et par cet étirement des actions que petit à petit, Krapp révèle aussi son tempérament. Après, juste pour répondre sur le fait, vous vous disiez que c'était une pièce à deux personnages, René, entre Krapp jeune et Krapp vivant. En même temps, j'ai l'impression que c'est un petit peu un dialogue impossible. C'est-à-dire que le Krapp jeune, il est mort, il n'existe plus. Et que le Krapp vivant, il s'adresse à lui, mais il s'adresse à lui comme déjà quelqu'un qui n'existe plus, il s'adresse à lui à la troisième personne. Enfin, il parle de lui à la troisième personne, il dit peut-être qu'il avait raison. Donc, comme s'il y avait aussi, c'est plus un soliloque, quoi. C'est vraiment un dialogue qui ne peut pas avoir lieu. Et moi, l'autre chose que j'ai trouvé intéressante dans ce spectacle, c'est que ce texte qui est répété, que Krapp se repasse encore et encore, cette scène avec la jeune fille, c'est aussi l'artiste, c'est aussi un autoportrait de l'artiste au travail. C'est-à-dire qu'en fait, Krapp, il est censé écrire, il est censé produire une œuvre, et donc en fait, à chaque fois, il est dans la répétition du travail et dans le travail de la répétition, où en fait il est en train de se repasser en boucle ce qui va l'amener lui-même à produire et à répéter le discours et à répéter toujours les mêmes choses.
C'est vrai que sur la dernière bande, moi j'ai le souvenir précis de deux autres mises en scène, l'une qui était de Stuart Side, avec Stuart Side, qui jouait vraiment sur le vieux fou, l'archiviste. Il y avait beaucoup de, justement de décors, de bandes, de cartons, enfin, etc. Et l'autre qui était d'ailleurs aussi à la télé, c'était Bob Wilson, qui mettait en scène et qui jouait lui-même Krapp. Et là, c'était Wilsonien en diable, mais au carré, quoi. Wilson plus Beckett, joué par Wilson, c'était quelque chose d'à la fois entre le clown, peut-être un peu de ce que vous disiez sur Jacques Weber, Caroline, mais sur un clown complètement qui contrôle tout et tout, où tout se dérègle aussi. Mais il me semble qu'ici, on est vraiment, moi, c'est vraiment la plus belle mise en scène de la dernière bande que j'ai vue jusqu'à présent. J'en ai vu deux ou trois autres, me semble-t-il. En ceci, qu'elle est, je sais plus qui disait Alos, mais Caroline Châtelet, il y a quelque chose comme cela, mais parce que il y a le corps de Denis Lavant, il y a ça, vous disiez ce masque, mais c'est quand même aussi un corps parce qu'il y a une énergie. Et c'est vrai que la façon dont il épluche sa banane et dont il la caresse, etc. Il y a quand même que lui, se dit-on aujourd'hui, capable de produire pareille sensation avec dans une économie de mouvement, c'est virtuose et pour il le répète de façon extrêmement précise ainsi chaque soir. Il y a ce côté clown triste qui lui va tellement bien, mais aussi clown délirant. Moi, je crois qu'il parle vraiment à Krapp plus jeune de Denis Lavant. Et je crois qu'il dialogue vraiment avec la bande. Ça, c'est, je pense, aussi son investissement à lui qui procure cette sensation-là. Et le fait est que on peut le voir Caroline Châtelet de différentes façons, comme on l'évoque nous autour de cette table. Dialogue impossible, dialogue réel, dialogue à l'autre qui est mort. Et je crois que qu'avec l'avant, ça devient complètement vivant. Lucille Comeau.
Oui, ça devient vivant aussi parce qu'en effet, il est drôle. On a beaucoup parlé de son visage, mais il a ce contraste entre quelque chose, en effet, de mortuaire, de potentiellement extrêmement figé. Quand cette lumière, quand cette seule ampoule s'allume, moi, je ne voyais, comme dans Cap aux Pires, son précédent spectacle, déjà Beckett à l'Athénée, pendant très longtemps, on ne voit quasiment que ses rides du front et qu'on a vraiment l'impression que c'est un crâne vu du dessus, alors même que moi, j'étais en dessous. Donc, c'est quand même assez surprenant. Ouais. Et en même temps, dès qu'il se lève et qu'il commence cette espèce de pantomime qui répète, donc en effet il y a la boucle, le motif de la boucle qui est extrêmement important, il a un corps d'une souplesse qu'on ne soupçonne pas. Donc ce contraste-là, c'est exactement le même contraste qui existe entre l'évidement et le plein, la musique et le silence. Enfin, c'est extrêmement musical. Dans Cap au Pire, il y avait eu un travail fait qui était vraiment un travail musical sur la langue de Beckett, c'est-à-dire que toutes les phrases partaient presque de la même note, retombaient à la même note, on aurait pu l'écrire comme une partition. Et là, il y a plein de passages qui sont également écrits très musicalement. Je pense que Jacques Ozanski, avec lui, a beaucoup travaillé là-dessus. Ce qui fait qu'il y a à la fois une jouissance de la langue qui est traitée comme de la musique. Tous les mots sont dits, c'est le fameux bobine qu'il savoure dans la bouche comme on mange quelque chose. Et en même temps, qu'il l'évide. C'est-à-dire que tous les mots finissent dans sa bouche par ne plus avoir leur sens habituel. Et c'est un personnage qui d'ailleurs va chercher dans le dictionnaire certains mots dont il ne souvient plus le sens. Et tous les mots du texte peuvent avoir ce régime-là, c'est-à-dire des mots qui, dit sur la scène, dit dans la bouche de Denis Lavant, perdent complètement leur sens habituel et finissent par avoir une forme de statut musical très étrange.
René Solis.
Oui, deux choses. D'abord, pour rebondir sur ce que disait Caroline sur l'autoportrait de l'artiste au travail, il y a quelque chose qu'on entend très bien, qui est presque le cœur du texte, qui est dit en très peu de mots, mais c'est qu'en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il a renoncé à l'amour parce que il avait le feu sacré et que donc il avait trouvé un sens à sa vie qui était la littérature. Et le constat d'échec total et absolu de ces deux tableaux, il est incroyable. Et il est fait en quelques phrases. Et c'est effectivement totalement vertigineux et terrible. Bien sûr, sur Denis Lavant et sur son corps et sur, parce que c'est pas une statue, c'est un acteur qui bouge formidablement bien. Il y a côté danseur, on parlera de danse tout à l'heure, mais et je pensais aussi au fait que pour jouer Beckett, on a l'impression quand même qu'il vaut mieux avoir un certain nombre d'années de théâtre derrière soi. C'est-à-dire que ça va quand même à des comédiens qui arrivent à une maturité. Alors on n'a pas cité Serge Merlin quand même dans les comédiens beckettiens, mais vous disiez donc oui, on se dit c'est Denis Lavant, c'est une telle évidence que c'est magnifique. Moi je pense à d'autres de sa génération où je me dis tiens, un jour je pense qu'ils le feront, deux Nicolas Bouchon et Laurent Poitrenaud, on peut les imaginer en acteurs beckettiens.
Le dernier mot, Caroline Châtelet, vous imaginez ou d'autres, peut-être un nom ou deux, un autre crap.
Alors là, il y a eu un esprit d'escalier comme ça.
Ouais, attention, peut-être... ça va être étrange.
Mais Laurent Poitrenaud, justement, pour le coup, je reprends.
Dans quelques années, hein.
Oui, on va attendre encore un peu.
Attendre une vingtaine d'années pour Laurent Poitrenaud. Au fait, il peut le faire demain, ce sera sans doute formidable. La dernière bande, en tout cas, telle qu'on peut la voir au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet, cette pièce de Samuel Beckett, elle est mise en scène par Jacques Ozinski, interprétée par Denis Lavant. C'est jusqu'au 30 novembre, je crois qu'il ne faut pas trop tarder pour prendre ses places. À suivre, on va aller voir ce que font Marie-Pierre Bréban et François Chaignoux en ce moment à la MC93. Il y aura un coup de cœur de Caroline Châtelet et un journal de la dispute consacré à l'édition théâtrale.
France Culture, la dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Symphonia Harmoniae Caelestium, Revelationum, MC93, c'est-à-dire la Maison de la Culture de Saint-Denis à Bobigny. C'est une expérience à laquelle nous sommes conviés par la musicienne Marie-Pierre Bréban et le danseur, chanteur, historien François Chaignoux. Point de départ de ce spectacle, l'œuvre musicale d'Hildegard von Bingen, religieuse bénédictine, mystique du XIIe siècle, qui fut aussi théologienne et médecin. On va découvrir les deux interprètes qui ont adapté ce répertoire pour leur voix et un bandoura, instrument traditionnel ukrainien, une sorte de harpe, de sitar, un mélange un peu de ces deux, en tout cas dans les sonorités, on va l'entendre. Et après avoir joué plusieurs fois une sélection de ces mélodies, qu'on dira de type grégorien, il propose cette fois l'intégralité de ces 69 envolées méditatives, musique parfois accompagnée par la danse, la gestuelle épurée de François Chaignoux, pour proposer une immersion, débarrassée de son contexte catholique ou pas, on en parlera, pour approcher une mystique qui ne reposerait que sur l'art.
Quod in subditam femi
Premier sentiment sur ce spectacle signé François Chéniaud et Marie-Pierre Bréban, René Solis.
C'est une très belle aventure radicale et extrême, un peu long peut-être quand même.
Lucille Comeau.
Oui, c'est en fait la longueur est le sujet. Enfin, je vois pas bien ce que ça pourrait être sans ça.
Caroline Châtelet.
Alors, plus qu'un spectacle, c'est une expérience qui nous fait éprouver le mystère de l'univers d'Hildegarde de Bingen.
René Solis, pour décrire un peu l'espace de jeu, les partis pris de ce spectacle.
Alors d'abord, parler de l'espace de jeu, c'est aussi parler de la salle, puisqu'il y a une fusion entre la scène et la salle, puisque les spectateurs sur le plateau sont sur le plateau de la salle Christian Bourgois de la MC 93. Donc ils sont disposés en cercle, un cercle presque complet, et au milieu de ce cercle, il y a petit élément impraticable, comme on dit, avec deux ou trois cubes surélevés avec deux arches qui rappellent des arches d'église romane, tout simplement. Et les spectateurs sont assis, mais ils sont assis par terre. C'est-à-dire que ils sont sur des chaises sans pieds, on peut dire. Donc il y a des dossiers et des endroits assises, pour s'asseoir, des assises. Mais on est au niveau du sol. Et cette position très particulière, elle est inhabituelle. Et donc on met un peu du temps à s'installer parce qu'on peut, on sait pas très bien si on peut s'asseoir. Si on étend les jambes, on peut même plutôt s'allonger. Donc chacun trouve sa façon de s'installer. Et ensuite, il faut parler des costumes, puisque les deux interprètes, ils sont nus. Pas complètement, mais j'y reviens. Et tatoués, donc c'est la première chose qu'on voit. Ils ont d'abord sur la tête des chignons très très hauts, et puis ils ont les corps couverts de tatouages, de dessins qui sont à la fois, ils peuvent être des dessins de fleurs ou bien des lettres, mais de textes qu'on ne déchiffre pas. Et ils sont nus jusqu'à la ceinture, puisqu'ils ont en fait des pagnes. Et ces pagnes, on a le sentiment que ils sont pas là tant pour cacher la nudité du bas que parce que ils en ont besoin, puisque ces pagnes permettent de d'accueillir les dispositifs d'amplification, puisque il y a plusieurs micros et que le son est quelque chose d'absolument primordial dans ce spectacle, la qualité sonore, et que tout est amplifié, aussi bien les voix que l'instrument. Et puis il y a ce troisième personnage, presque, parce qu'il prend beaucoup de place, et y compris on a mal quelquefois pour l'épaule et les seins de la musicienne qui tient cet instrument contre elle, c'est une étreinte. Et cet instrument, vous le disiez, donc qui est le bandoura, qui évoque la viole, le luth, en tout cas un instrument à cordes pincées, donc la harpe aussi, mais aussi le clavecin d'ailleurs.
Les clavecinistes, surtout Marie-Pierre
Bréban. Cet instrument qu'on entend du début à la fin, ou pratiquement, il y a quelques silences, alors il y a la voix aussi, mais il a un son extrêmement enveloppant, et c'est un son cristallin en même temps. Donc on est dans une un son qui coule comme de l'eau qui coulerait tout du long, et puis en même temps on est totalement enveloppé par ce son. Donc il y a un côté envoûtant sur lequel on reviendra.
Lucille Comeau, cette expérience alors, comment l'avez-vous vécue?
Bah, c'est très particulier, ça tient en effet beaucoup, je vais en reparler, mais à cette position dans laquelle on est, c'est-à-dire que c'est pas du tout anodin, on est donc non seulement au ras du sol, mais on est aussi invité à être dans une position de réception, ce qui est pas quelque chose de très courant au théâtre, où en général on est assis, on a quand même quelque chose un peu de proactif dans la... Là on est un peu comme au planétarium, moi j'ai quand même beaucoup pensé à une expérience de planétarium, parce que aussi la lumière dont on va parler est très importante, et qu'il y a on a l'impression d'y passer plusieurs jours, c'est-à-dire que la lumière et la manière dont on reçoit le spectacle fait que on est en phase de révolution, littéralement. C'est-à-dire que on a l'impression que le soleil se lève et se couche plusieurs fois. Il y a des aubes, il y a des crépuscules. Donc on est un peu comme dans un planétarium et on reçoit plus ou moins difficilement. Moi, en tant que cartésienne chiante, au début, c'était difficile. C'est-à-dire que j'étais complètement bloquée, raide comme un piquet sur mon coussin. Et j'avais du mal à rentrer là-dedans. Je me suis dit, non, mais 2h30 comme ça, ça va quand même être très compliqué. Et ça demande une forme d'abandon qui, d'ailleurs, n'est pas le cas de tout le monde. Il y a le soir, c'était un après-midi où j'y étais. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont partis. Et il y a des réactions un peu agacées. Parce qu'un peu comme dans le spectacle dont on parlait avant, ça nous met dans une forme d'économie de l'attention dont on est complètement déshabitué. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais ça. Donc moi, ça m'a un peu fait penser, alors que je n'ai jamais vu ça, à des spectacles dont j'imaginais des performances des années 70, un peu New Age, parce que cette espèce de mystique universelle qui, en effet, se détache très très vite de du latin, de la mystique du XIIe siècle, ça pourrait être un conte oriental, parce que cette musique peut aussi faire penser à un conte oriental, ça peut être quelque chose de médiéval, de l'ordre de l'épopée, même s'il y a quelque chose aussi dans la manière dont les corps bougent, qui fait penser à du récit. En tout cas, c'est quand même extrêmement fort. Enfin, moi, je ne connaissais pas la voix de François Chéniaud, je le connaissais uniquement comme performeur, comme corps. Bon, là, sa voix est un corps. Enfin, c'est très impressionnant. Là, ce qu'on a entendu, il faut imaginer que ça dure quasiment 2h30, qu'il passe d'une voix de poitrine qui est très belle. Bon, vraiment, là, il est très, très, très fort. À une voix de tête où, bon, là, il y a plus de problèmes de justesse, mais aussi parce que le temps passant, je pense que ça devient difficile, et qui revient après à nouveau en voix de poitrine, et qui est d'une justesse, d'une beauté, sa voix. Il y a des moments a cappella, parce que parfois elle s'arrête quand même un peu de jouer, la pauvre. Et il retombe sur ses pattes. Enfin, c'est quand même assez impressionnant, parce que c'est une musique, c'est très difficile à chanter, avec des quarts de ton, des effets d'appoggiature. C'est pas du tout une musique naturelle, je pense, pour nous occidentaux d'aujourd'hui. Donc c'est une sacrée expérience. Je pense que vraiment, là, je m'en rappellerai.
Et d'autant plus qu'on l'a pas précisé, mais eux-mêmes vivent cette expérience-là, ayant entièrement mémorisé partition. Enfin, il n'y a pas de partition sur scène, c'est du par cœur. Ce qui, sur cette durée-là.
Pour le coup, vraiment de l'épopée,
vraiment quelque chose qui se.
C'est impressionnant.
Enfin, il donne évidemment énormément. Caroline Châtelet.
Oui, c'est vraiment un spectacle qui, eux aussi, en tant qu'artistes, les amène à se déplacer, puisque François Chéniaud, là, il doit chanter entre 2 et 3 octaves, puisque les compositions de Hildegard de Bingen couvrent cette amplitude-là. Et Marie-Pierre Préban, elle a appris la mandoura qui est ce luth ukrainien, elle l'a appris spécifiquement pour ce projet-là. Et c'est vrai que tout comme eux sont déplacés, et c'est un travail qu'ils ont mené pendant plusieurs années, ben nous aussi, en tant que spectateurs, nous sommes déplacés. Et c'est, personnellement, j'ai été un peu décontenancée aussi de me dire, mais bon, le spectacle dure 2h30, soit, mais il pourrait durer 1 heure comme 5 heures, en fait. Enfin, la seule justification, c'est qu'il joue l'intégralité des œuvres connues.
Parce que pour le coup, auparavant, ça fait plusieurs années qu'ils sont sur ce projet, et il y avait eu des premières formes d'une demi-heure, d'une heure, et là,
C'est la
première intégrale. Bon, c'est juste pour préciser, Caroline, pardon. Chose,
ouais. Après, une demi-heure, je pense que vous avez raison, ce serait trop court, mais 1h30...
Non, mais ils l'ont fait dans le cadre d'expositions, dans d'autres lieux aussi, d'autres espaces.
Mais une longueur plus courte que 2h30 pourrait néanmoins déjà permettre de s'immerger complètement dans ce dispositif, dans cet univers, et de pouvoir aussi le traverser, puisque c'est vrai que là, 2h30, ça impose... En fait, ça nous oblige à une autre attention, vraiment, à lâcher prise, à être dans une autre réception par rapport aux choses. Mais après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, au final, dans leur démarche, c'est que tout, c'est-à-dire que ce soit le dispositif scénographique que vous avez décrit, René, avec ces ruines d'édifices religieux, que ce soit les chants, que ce soit ces costumes très minimales, que ce soit ces tatouages qui reprennent pour partie des textes de la compositrice, que ce soit leurs ongles, et en même temps, en plus, ils sont tous les deux costumés de la même manière. Tout nous renvoie à un éloignement de notre monde. Et donc, en fait, moi, au sortir de ce spectacle, j'ai peut-être approché un peu Hildegard de Bingen, mais en fait, son univers, il me reste éminemment mystérieux et toujours aussi inaccessible. Et que le spectacle, il rend compte aussi du mystère de cet univers-là. Enfin, où c'est une femme qui était connue aussi parce qu'elle fabriquait des potions, elle a écrit des textes, enfin, elle a produit beaucoup de choses, mais c'est aussi quelqu'un qui a généré peut-être un peu des fantasmes autour de sa figure, et que le spectacle en lui-même, il rend compte de ça.
René Solis.
Oui, non, tout à fait. Je repensais moi à cette histoire des costumes et de ce que ça évoque, parce qu'il y a une dimension de sauvagerie, de totalement tellurique. Ça, c'est deux faunes.
Il y a presque un côté héroïque fantasy aussi.
Oui, on pourrait
ces
presque.
Corps puissant et en même temps très gracile.
Oui, gracile, puissant, c'est ce contraste. Et c'est l'histoire aussi des forces telluriques domptées par les forces célestes ou quelque chose comme ça. Ces deux faunes sont touchées par la grâce de la musique et cette musique qui coule. Je pense à ça. Mais c'est vrai que j'ai presque eu la sensation contraire. C'est que moi, je suis rentré plutôt très facilement là-dedans. J'ai marché très vite. Je trouvais ça très beau et très étrange et j'étais prêt à adhérer. Et puis au bout de... Non, alors pas une demi-heure, parce que non, une demi-heure, ça suffit pas. Bien sûr que la durée est importante. J'ai le sentiment quand même que au-delà de 1h30, 1h45, ça commence à être un petit peu... Alors on peut décrocher et revenir, il y a aucun problème, puisqu'il y a ce côté mélopé, envoûtant, et en même temps, on peut fermer les yeux, on peut penser à autre chose, on peut uniquement écouter, justement, et ne plus voir, on peut se laisser c'est bercé, on peut. Mais il y a un moment où il y a un effet, je trouve, de trop plein. C'est-à-dire que c'est comme s'ils veulent aller au bout de leur. Et ça, c'est évidemment très beau et très bravo. Enfin, on peut pas dire autrement. Mais du coup, moi, j'ai eu un peu du mal à les suivre sur la dernière demi-heure, hein, on va dire.
Bon, on doit s'arrêter là. Leur fil. Caroline Châtelet, vous allez prendre la parole dans un instant pour votre coup de cœur. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Je trouve ça étonnant parce qu'en même temps, c'est pour la dernière demi-heure que pour moi, il y a une variation dans la musique. Alors que la musique est extrêmement cyclique.
Non, mais la durée de la transe n'est pas garantie.
On a tous les trois des perceptions différentes du temps. Mais c'est intéressant.
En fait, vraiment, emmener les gens voir ça, vous en saurez beaucoup plus sur eux.
Alors, vous avez jusqu'au 17 novembre, en tout cas, pour ce qui est de la MC 93 à Bobigny, pour aller voir ce spectacle de Marie-Pierre Brébant et François Chéniaud. Ensuite, on pourra voir Symphonia Harmoniae Celestium Revelationum du 7 au 9 décembre aux Deux Scènes Besançon, avec le partenariat du FRAC Franche-Comté. 13 et 14 décembre à l'Arsenal, c'est la Cité Musicale de Metz. Du 4 au 6 février au Tandem, scène nationale, l'Hippodrome de Douai. Et 10 et 11 mars à Bonlieu, scène nationale d'Annecy. Le coup de cœur ce soir, celui de Caroline Châtelet pour Un Dieu, un animal, d'après le livre de Jérôme Ferrari. C'est une mise en scène et une adaptation de Julien Fichera. Plusieurs dates à venir en janvier, à Vanves, à Bastia, à Paris, à Ajaccio. Description, alors on voit bien Ferrari, Fichera, Ajaccio, Bastia.
Et Avignon cet été.
Avignon l'été prochain?
Oui.
Ah ben voilà, c'est une information. Alors qu'est-ce qu'on pourra découvrir avec ce spectacle?
Alors d'abord il y a un livre, donc Un Dieu, un animal, publié en 2009 aux éditions Actes Sud, de l'auteur français Jérôme Ferrari. Alors dans ce roman, lui, un personnage central mais sans prénom, il s'est engagé quelque temps comme mercenaire en Irak. Et après avoir réchappé d'un attentat kamikaze, il revient vivre chez ses parents. Donc le retour dans son village de Corse n'est pas simple, puisqu'il est assez traumatisé par son expérience de la guerre. Il va se réfugier dans ses souvenirs et il trouve dans le souvenir fantasmé de ses premiers émois amoureux un refuge. Il décide alors d'écrire à Magali, une jeune femme avec qui il eut une histoire lorsque elle, adolescente, venait passer ses vacances avec ses parents dans le village de Corse où lui vit quotidiennement. La lettre aurait pu et aurait dû demeurer sans réponse. D'autant que la vie de Magali, qui travaille comme chasseuse de tête pour une entreprise et dont le quotidien est rythmé intégralement par son travail et ses relations avec ses collègues, est à milieu de celle de cet homme. Magali accepte pourtant de le revoir. Ils connaîtront une fugace et intense histoire d'amour. Mais voilà, un dieu, un animal n'a rien d'un conte et si le récit s'ouvre par « bien sûr, les choses tournent mal », c'est que au final, bien sûr, les choses tournent mal. Donc, adaptant au plateau le roman, le metteur en scène Julien Fichera de la compagnie Espace Commun, il livre une mise en scène économe où l'objet même qu'est le livre devient un outil dramaturgique. Quand le spectacle débute, les deux comédiens, Ambre Pietri et Martin Nikonoff, arrivent sur un plateau nu, l'un tenant un exemplaire du livre de Ferrari à la main. Il salue les spectateurs et face à eux, il raconte d'abord chacun un souvenir personnel avant d'évoquer l'origine du titre du roman. C'est une référence à un dialogue d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Donc ce choix de raconter un souvenir peut déconcerter, mais il rappelle au contraire qu'on n'entre pas dans un spectacle comme dans un livre et qu'un acteur, pour porter un texte, doit d'abord s'en saisir, l'appréhender, le faire sien, le réfléchir, au risque de trouver des fois des résonances avec sa vie. Ensuite, les comédiens ouvrent le livre. Ils vont le déplier, le fixer au mur et l'ouvrage va se révéler être une carte. C'est en fait en affirmant le geste d'adaptation du roman, le spectacle y fait de l'objet livre lui-même un outil scénographique et un espace de projection mentale. Sur cette carte, des territoires sont dessinés, tandis que d'autres vont apparaître ou disparaître en surimpression, grâce à la création de lumière notamment. La géographie physique s'adjoint celle émotionnelle, psychique des deux personnages et les territoires, espaces, temps, réels comme fantasmés, se superposent et se succèdent. Face au public, les comédiens portent de manière directe la langue de Ferrari. Ils racontent plus qu'ils n'incarnent leur personnage, ils disent avec justesse aussi bien les souffrances, les échecs et l'impossible abîme qui les sépare. Leur interprétation est tout en retenue, elle révèle la violence de leurs deux parcours, violence d'une guerre absurde, violence du monde de l'entreprise et leur incapacité à trouver un sens à leur existence. Donc c'est une adaptation épurée et subtile où résonne l'écriture lumineuse de Ferrari, une langue solaire, qui en alliant sécheresse des formules et lyrisme des sentiments rend d'autant plus brutal les drames qui se nouent.
Un dieu, un animal, on pourra voir cette production au Théâtre de Vanves le 18 janvier 2020, ensuite ce sera au Théâtre Alibi à Bastia, 23-24 janvier, au Théâtre Dunois à Paris, 24 au 26 février, au Théâtre d'Ajaccio les 10-11 avril, donc à Avignon.
Au Théâtre du Train Bleu.
Au Théâtre du Train Bleu, le nouveau bon lieu du Hof à Avignon. Et pour être tout à fait complet, normalement, j'ai jamais fait une annonce aussitôt, mais sachez que le 16 juin, à 18h30, Lucille Como mènera la masterclass de Jérôme Ferrari. Ce sera en public à la BNF et ce sera diffusé sur l'antenne de France Culture dans la grille d'été 2020. On se projette très très loin.
Ouais,
Lucille,
même moi, je ne me projette pas.
Et pourtant, vous y serez le 16 juin à 18h30 à la BNF. Et Lucille Como sur tous les fronts. Le journal de la dispute, ce soir, lire le théâtre.
Oui, la saison des prix littéraires touche à sa fin, occasion de remarquer qu'il y en a dont on parle nettement moins que les autres. Et parmi eux, le Grand Prix de littérature dramatique Arsena, qui a récompensé en octobre dernier, comme les automnes précédents, deux textes de théâtre parmi des dizaines envoyés par les éditeurs. Cette année, c'est Claudine Galéa qui a remporté le prix Jeunesse pour Noircisse, publié aux éditions Espace 34. Et c'est Tawajdi Mouawad qui a échu le Grand Prix avec Tous des oiseaux, publié aux éditions Léméac Actes Sud Papier. Apparemment, les délibérations furent houleuses concernant ce dernier, certains membres du jury considérant qu'il aurait mieux valu attribuer le prix à un auteur moins en vue pour l'encourager, d'autres défendant au contraire la visibilité et l'excellence reconnue de Wajdi Mouawad. Une tension révélatrice des difficultés du petit milieu de la littérature dramatique contemporaine dont on parle peu, qui peine à être reconnu comme un secteur à part entière de la littérature. D'un point de vue économique, c'est une niche au sein du vaste territoire de la littérature contemporaine, peu publiée, souvent à petit tirage. Il y a certaines grandes maisons d'édition qui ont leur collection particulière, qu'on connaît bien, Folio Théâtre par exemple. Il y en a d'autres qui publient des grands textes comme elles publient le roman ou l'essai, c'est le cas des éditions de Minuit. Ce sont elles qui vendent aujourd'hui, souvent à des fins scolaires, les best-sellers les plus récents, c'est En attendant Godot, Antigone ou Les Bonnes. Certaines maisons spécialisées publient le théâtre contemporain, L'Arche, Actes Sud Papier, Les Solitaires Intempestifs, L'Avant-Scène Théâtre, entre autres. Les librairies spécialisées se compte sur les doigts d'une main et on ne fréquente ces textes, souvent dans leur version écrite, que lorsqu'on est un spectateur au théâtre, devant les étals de livres à l'entrée ou à la sortie des représentations. Je crois bien personnellement n'avoir jamais lu un texte de théâtre contemporain que je n'ai pas vu d'abord jouer. Cette précarité du milieu, cette invisibilité du livre de théâtre viennent probablement de ce qu'on les lit peu volontiers, y compris quand on le fréquente beaucoup, mais aussi de ce que ceux qui écrivent aujourd'hui pour la scène se revendiquent moins auteurs comme de théâtre et sont souvent les seuls à mettre en scène leurs propres textes. Pour revenir au Grand Prix de cette année, donc Tous des oiseaux, dans un court texte inscrit à la fin du volume, Wajdi Mouawad raconte comment ce spectacle a été le premier créé, je cite, à titre de directeur du Théâtre National de la Colline, inscrivant d'emblée le texte dans un espace-temps limité, un mandat, une saison, une scène, ici cité en tout chiffre et lettres, le 17 novembre 2017, la salle Maria Cazares. Une manière d'ancrer le texte de théâtre dans un présent de la représentation, quitte à annuler l'effectivité de son édition. Et vous, qui fréquentez assidûment les balcons et les orchestres, lisez-vous du théâtre comme vous lisez de la littérature?
Ah, c'est ça la question. Mmh. Bon, alors on commence par, bah, du coup, René Solis.
Alors, j'en lis relativement peu, et je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que je lis surtout ce que j'ai déjà vu, ce qui correspond tout à fait à l'état de l'édition théâtrale. Alors d'abord, dire quand même que... certes, c'est des petits tirages, mais on publie beaucoup de théâtre en France, beaucoup. Il y a énormément de, il y a plusieurs maisons qui ne font que ça. Vous l'avez cité, il y a les théâtrales aussi, donc Actes Sud Papier, Solitaire, etc. L'avant-scène, mais il y a aussi des plus petites maisons, plus spécialisées. Et donc on publie énormément et on publie. Alors on republie. Des classiques, évidemment. On republie aussi des classiques dans des nouvelles traductions, puisque le théâtre est le secteur où l'on retraduit le plus les classiques. Et enfin, on publie beaucoup de textes contemporains. À peu près tout ce qui est joué un peu longtemps dans un théâtre public, puisque c'est quand même le théâtre public qui assure l'essentiel de la diffusion des textes contemporains, fait l'objet d'une édition. Et ça introduit un effet... à la fois vertueux et pervers. Et l'effet pervers, il est que, en gros, si vous êtes auteur de romans totalement inconnus, sans aucun contact ni réseau, et que vous écrivez un roman génial et que vous l'envoyez à 10 éditeurs, vous avez une petite chance d'être lu et publié. Petite, mais réelle. Vous êtes un auteur génial de théâtre qui n'avait pas de contact avec le milieu théâtral ni avec le milieu de l'édition. Vous écrivez une pièce géniale, vous n'avez aucune chance d'être publié. Puisque la première question que n'importe quel éditeur, y compris ceux qui prennent à cœur de bien faire leur travail, c'est est-ce que ça va être joué? Et donc, il y a là quelque chose d'une ambiguïté qui, moi, me pose question, on va dire. Mais en même temps, je suis le premier à reconnaître que spontanément, je n'achèterai pas facilement du théâtre. Je lis ou j'achète ce que je vois et ce que j'ai déjà vu. Et le fait que les textes soient mis à la disposition des spectateurs est évidemment très positif. Et cette mise à disposition est très subventionnée, il faut le dire aussi, puisque les tirages sont de toute façon très faibles. Donc, entre le CNL, les dispositifs d'aide, les systèmes de préachat par les théâtres, alors c'est aussi l'autre ambiguïté des éditeurs de théâtre, c'est que, ils prennent souvent pas beaucoup de risques. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs de pas gagner beaucoup d'argent, mais ils sont sûrs aussi de pas en perdre. Et du coup, ça crée une sorte de, allez, pas de confort, mais de système qui fonctionne bien, qui tourne, mais qui manque, parfois, on se dirait, d'audace. Difficulté d'ailleurs pour des auteurs un peu difficiles ou en marge, qui par exemple exigent des typographies très particulières de leur texte, de trouver un éditeur qui accepte de publier des choses un peu qui sortent justement des normes.
Lucille Comeau.
Oui, parce que par exemple, quand on regarde les deux livres, bon, le Wajdi Mouawad, c'est évident, c'est de la littérature très classique. Bon, c'est du théâtre, mais c'est des grands blocs de texte, c'est très lyrique, c'est du français très classique finalement. Donc on comprend tout à fait ce que c'est que la littérature contemporaine qui fonctionne en livre. Enfin, c'est vraiment un très bon exemple, je trouve.
Caroline Châtelet, sur cette question, lisez-vous, hein, c'est quoi la question finale?
Du théâtre comme vous lisez de la littérature.
Ouais.
Mais en fait, moi c'est exactement comme vous, c'est-à-dire que je vais lire des textes une fois que qui seront connectés à des spectacles que j'aurai vu.
Mais comme pour vérifier quelque chose, ce qui est quand même très bizarre comme manière de lire.
Alors, c'est pas tant pour vérifier, c'est pour retraverser... aussi quelque chose, et d'ailleurs ça peut être un exercice assez beau, puisqu'on a tout à coup des images qui surgissent et on recompose aussi le spectacle différemment. Après, c'est vrai que sur cette question du lien, enfin du fait que l'édition se nourrit de la représentation et inversement, et qu'il y a donc des maisons d'édition qui vraiment volontairement publient des textes à partir du moment où le texte va être créé, je pense que ça dépend aussi. C'est vrai que les éditions Actes Sud Papier, elles par exemple, elles ont cette politique là les éditions Espace 34 ou les éditions théâtrales, elles en tous les cas, elles revendiquent de ne pas suivre forcément le calendrier de création. Parce que c'est vrai qu'après, je pense que parfois ça peut aussi amener certains travers, où on va avoir certains spectacles sous couvert qu'ils seront créés dans une grande institution théâtrale. On verra la publication du texte, alors que le texte n'est pas forcément très intéressant. Par exemple, le texte de Vincent Macaigne, qui a été l'un de ses premiers textes écrits quand il a été créé à La Colline, c'était « Voilà ce que jamais je ne te dirai, je suis un pays ». Je pense que l'édition de ces textes aurait pu peut-être être évitée. Enfin, c'est peut-être pas
moi, je trouve que c'est... Non, mais il y a tout un théâtre, par ailleurs, qui n'est pas un théâtre de texte. Et qu'est-ce qu'on en fait aussi dans la question de la patrimonialisation du théâtre? C'est encore une autre question. Mais c'est vrai que ça ne fait... En fait, on ne parle que d'un type de théâtre quand on parle du théâtre à lire.
Mais alors, le fait est que c'est compliqué quand on n'a pas de relation. Mais il y a quand même des comités de lecture dans beaucoup de théâtres.
Et de plus en plus.
Bon, à la Comédie française, c'est une chose, mais à La Colline, au Rond-Point. Oui, mais du coup, trouvant un théâtre, on trouvera peut-être un éditeur. Non, mais c'est important parce qu'il y a vraiment des gens qui passent un temps fou. Et c'est vraiment un choix des théâtres. Alors, complètement public, de dire il y a des gens qu'on va payer pour lire des textes, on va se réunir, et il y a quand même beaucoup de créations, notamment ça a été le cas à La Colline, déjà du temps de Stéphane Brunschweig, mais aussi maintenant avec Wajdi Mouawad, et c'est le cas au Rond-Point aussi, de textes qui voient le jour et la scène grâce aux travaux des comités de lecture. Caroline Châtelet ?
Oui, pour la visibilité justement aussi, toujours de ces textes de théâtre contemporain, mais cet été s'est tenu à Avignon les états généraux des écrivaines et écrivains de théâtre, qui ont travaillé pendant 3 jours et qui à la fin aussi ont avancé des préconisations. Et c'est vrai que pour favoriser la visibilité aussi des textes de théâtre, eh bien, ce qu'il faut, c'est déjà favoriser aussi la visibilité des auteurs. Donc il existe maintenant, aujourd'hui, quelques autrices ou auteurs qui sont co-directeurs ou alors directeurs de centres dramatiques nationaux. Mais c'est un mouvement aussi qui devrait aussi pouvoir s'amplifier, puisqu'on a Carole Thibault à Montluçon, par exemple. C'est Olivier Saccomano qui co-dirige le théâtre des 13 Vents à Montpellier avec Nathalie Garraud. Et à partir du moment où on voit des artistes qui sont pour partie auteurs, directeurs de CDN, on voit beaucoup plus volontiers aussi des artistes associés qui sont aussi autrices et auteurs. Absolument. Je pense que ça peut être aussi un cercle vertueux. Et vous évoquiez le cas des comités de lecture, mais je sais qu'il y a des centres dramatiques nationaux qui, eux, font carrément des ateliers de lecture à destination des spectateurs. C'est le cas, par exemple, au Théâtre de Gennevilliers, où la comédienne Stéphanie Béguin, toute l'année, elle mène un atelier de lecture où elle fait découvrir des textes, comme ça, à des spectateurs.
D'autres questions ?
Non, je me faisais la réflexion en réfléchissant aussi à ce sujet qu'il y a eu un temps, je crois qu'il est vraiment révolu, où quand on était un écrivain, on écrivait du roman et du théâtre, ou du roman et de la poésie. Et que c'est peut-être aussi que là, il s'est créé une forme de divorce entre le théâtre et l'édition. C'est qu'il n'y a plus de grands noms du roman, de grands noms populaires.
Yasmina Reza vient du théâtre,
elle a développé une écriture romanesque. Mais...
Surtout, du coup, leur réputation se nourrit, la réputation de romancier et romancière en l'occurrence, nourrit beaucoup, j'imagine.
Mais il y en a très peu, alors qu'effectivement, elle avait par le passé
de. Gallimard l'a publié, et ça fait partie de textes que j'ai lus sans avoir.
Oui, mais parce que c'était elle.
Parce que c'était elle.
Nous sommes d'accord.
Je ne regrette pas de les avoir lus, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, ce ne sont pas les plus montrés.
Pas du tout.
On attend quand même
que les autres les metteurs en scène s'en emparent. Que Gallimard les publie aussi. Parce que
pas monté parce que trop écrasant par la valeur littéraire que les textes ont, je pense. Ça peut. C'est vraiment une hypothèse que je fais, mais je pense que quand on est un homme de théâtre, ça peut, ou une femme de théâtre, ça peut être assez écrasant d'avoir un objet aussi justement édité, aussi littéraire et. C'est une question. Pour Beckett, ça va. Pour Marendry, c'est peut-être.
Ah, c'est compliqué comme question.
Pardon, Arnaud, de rappeler l'importance des comités de lecture, bien sûr. Et puis, moi, je pense aussi à des maisons comme la maison Antoine Vitesse qui diffuse, qui fait connaître des textes d'auteurs étrangers.
La mousson d'été.
Et qui, ne sont pas. C'est pas des considérations de marché. C'est-à-dire que c'est vraiment la qualité des textes et leur intérêt qui font qu'ils les publient.
Mais après, c'est vrai que ce qui est compliqué, apparemment, c'est aussi toujours ce passage de la lecture, puisque là, on parle de la mousson d'été, ce sont des mises en espace et la lecture à la mise en scène. Et ce qui fait que il existe des auteurs de théâtre qui sont édités, qui au bout d'un moment deviennent eux-mêmes metteurs en scène de leur texte, parce qu'ils ne trouvent pas de metteurs en scène pour porter au plateau leur projet.
Ce qui nous amène à d'autres questions. Bon, il y en aura encore beaucoup d'autres à poser. On voulait quand même faire un peu de lumière aussi sur cette question de l'édition théâtrale. Alors, ce soir, le jeu de la dispute, c'est Lucille Comeau vient d'accepter in extremis de jouer avec moi à cette séquence. Il faut d'abord rappeler, vous savez, Lucille.
Je me souviens.
La question du jeu de vendredi. Vendredi, il faut quand même préciser qu'on faisait gagner des places pour le spectacle Mille et une nuits de Guillaume Vincent, dont nous parlerons bientôt. Et la question était:
à qui Scheherazade raconte-t-elle cette longue histoire?
La réponse:
au sultan Shahriar.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour l'exposition Marche et Démarche, une histoire de la chaussure, c'est au Musée des Arts Décoratifs. Ça vient de commencer, ça se poursuit jusqu'au 23 février. Alors vous rappelez, il faut donner que la question à Lucille.
Avec quelles précédentes expositions le Musée des Arts Décoratifs a-t-il amorcé l'exploration du rapport entre le corps et la mode?
Si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales. C'était remarquable, hein, Lucie. Tout cela envoyé par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinault et David Dana. Prise de son ce soir, Jacques Hubert. Réalisation, Émilie Valla. Demain, 19h, dispute, musique avec Pascaline Potvin, Olivier Lam et Christophe Comte. On parlera des nouveaux albums de Philippe Catherine, des Swans, de Brooke Candy et de Jim O'Rourke.